L'UROC, Union régionale des organisations de consommateurs de la région Nord-Pas-de-Calais, représente un certain nombre d'associations et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sylvie De Quester, qui est donc présidente de l'UROC. Bonjour Madame De Quester.
Oui, bonjour Monsieur Lavergne.
Combien d'associations sont fédérées dans l'UROC régionale du Nord-Pas-de-Calais?
Il y a 11 associations.
Donc ces 11 associations sont d'origine assez diverses.
Très diverses, mais on arrive à avoir des centres d'intérêt communs et à travailler ensemble. Donc certaines sont plus familiales, d'autres syndicales, d'autres exclusivement associations de défense aux consommateurs, mais on arrive à travailler les 11 ensemble.
Voilà, donc les problèmes de consommation et des consommateurs sont nombreux. Aujourd'hui, on va parler du surendettement. Pour parler de cette question, j'ai également invité M. Daniel Despinois, qui est donc représentant de la CNL, la Confédération Nationale du Logement, et qui est également vice-président de l'UROC. M. Despinois, bonjour.
Bonjour.
Évidemment, en France, ce problème est majeur. Dans d'autres pays également, on pourrait parler des États-Unis. Hein, peut-être c'est une des causes des problématiques actuelles mondiales. Dans notre pays, mais surtout dans notre région, ça se traduit par une certaine détresse des populations?
Les gens qui sont en situation de surendettement, oui, c'est une grande détresse. Et on en est encore finalement au fait de ne rien dire, de ne pas aller s'exprimer. Les gens n'échangent pas entre eux. Au sein de la famille, ils n'échangent pas. Ça reste assez tabou. Et il leur faut trouver le bon interlocuteur finalement avec lequel échanger, sans avoir l'impression d'être jugé de par la situation dans laquelle ils se trouvent. Oui.
Monsieur Despinois, il y a une forme de honte quelque part à confier sa détresse dans le cadre d'un surendettement?
Oui, la honte déjà pour beaucoup de locataires commence au moment où ils ont des impayés de loyer. Donc c'est vous dire la honte quand on est obligé d'avouer une situation de surendettement.
Donc effectivement, on peut dire que le nombre de cas réels par rapport au nombre de cas révélés ou exposés est peut-être bien supérieur.
Bien sûr. Surtout que là, on parle aussi également dans nombreux dossiers ou pour certaines dans nombreuses situations de malendettement. Donc c'est quelquefois des situations qui sont très limites avant d'y être. Voilà. Mais c'est vrai que quand on rencontre les personnes en permanence, il y a des gens qui sont en situation de surendettement depuis un certain temps. Mais le fait de ne pas avoir trouvé d'interlocuteur ou d'avoir le courage d'en parler laisse pourrir entre guillemets la situation. Et souvent, les gens s'enfoncent encore davantage. Voilà.
D'où l'objet d'ailleurs de cette émission, pour justement donner peut-être quelques conseils, également évoquer certains points qui pourraient encore gêner ces auditeurs qui sont victimes du surendettement, parce qu'il faut quand même bien parler de victimes.
Dans la majorité des cas, finalement, ce sont bien des victimes. Après, on sait que 80% des dossiers de surendettement qui sont déposés correspondent à des problèmes d'accident de la vie. Et donc il y a simplement 20%, je n'ai pas dit que c'est anodin, mais il y a 20% qui correspondent à l'endettement, ce qu'on appelle l'endettement actif. Voilà. Mais la majorité des dossiers ou des personnes qui rencontrent des difficultés, ce sont des gens qui ont rencontré un problème de divorce, un problème de chômage, ça va être un décès au sein de la famille, ça va être... Voilà, il y a plein de situations. Et c'est tout ça qui fait qu'on dit que les gens déposent un dossier sur endettement dans le cadre d'accidents par rapport aux accidents de la vie courante.
Monsieur Despinois, est-ce que les gens sont incités à se surendetter? À votre avis, est-ce que la société moderne, enfin la société actuelle, favorise le surendettement et qui trouve son intérêt à un moment donné?
Ah, c'est sûr qu'il y a des cas particuliers, les 20% dont parlait Sylvie, où l'endettement actif est favorisé par le recours à un certain crédit, le crédit dit revolving ou renouvelable, et puis toutes les incitations à la consommation. La première fois que j'ai entendu parler de paiement de vacances à crédit, moi ça m'a affolé. Penser que les gens s'endettent pour quelque chose qui paraît comme ça, superflu du point de vue de la gestion du budget, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Certes, La situation des vacances peut être supposée agréable, mais de commencer ou de poursuivre son endettement par des vacances à crédit, enfin, c'est une façon de s'enfoncer tranquillement, quoi.
C'est vrai que les gens, et les Français d'une manière générale, les gens qui vivent en France, bien sûr, ils ont des pratiques qui sont liées aussi à une incitation à une société qui est quand même une société de consommation. L'État français par lui-même est régulièrement en déficit. Et là, peut-être qu'il essaye de commencer à corriger le tir par rapport à des problèmes maintenant qui se déclarent au niveau européen ou au niveau international. Cet exemple qui vient du haut, est-ce que ça peut avoir une importance ?
Je pense pas que pour le je pense pas que pour le français qui rencontre des difficultés, finalement, c'est l'importance. C'est peut-être quelquefois, peut-être parfois le moyen de se dédouaner finalement en disant qu'ils ont des difficultés et que apparemment ils sont loin d'être les seuls et que au sein de l'État finalement la situation n'est pas mieux et l'endettement est loin d'être résolu. Mais non, je pense pas que ce soit la première chose à laquelle les gens pensent lors de leurs difficultés.
En fait, dans ces problèmes de surendettement, la question de la solvabilité est aussi importante.
Oui, tout à fait. C'est ce qui va déterminer aussi le reste, l'orientation du dossier aussi. Voilà, puisqu'il y aura soit la possibilité d'un moratoire lorsque les gens n'ont pas de capacité de remboursement. Lorsque les gens ont une capacité de remboursement, il faut qu'un plan puisse être établi finalement. Alors maintenant, avec le changement de loi, il va devoir être établi sur 8 ans. Avant, c'était 10, maintenant c'est 8. Voilà. Il faut aussi voir si un plan peut être établi sur 8 ans. Parce qu'après, il y a des soldes qui restent dus. Et quelquefois, vous voyez, dans un dossier de surendettement, au bout de 8 ans, donc avant c'était 10, voilà, maintenant ce sera au bout de 8, il restera 3 000, 5 000 ou 10 000 euros à régler sur l'ensemble du dossier. Ça ne sera pas toujours réalisable à ce moment-là. Finalement, dans 8 ans, on n'en sait strictement rien, si les gens sont capables ou pas de pouvoir honorer les soldes restant dus lorsque les sociétés de crédit finalement ne veulent pas que le consommateur n'honore pas sa dette, quoi, voilà. Et ensuite, il y a les plans d'établissement personnel. Donc là, dans ce cadre-là, on est sur une annulation de dette en sachant que là, et donc les gens ont une annulation totale de leur dette.
En contrepartie de cette annulation, peut-être oui. Qu'il y a des contraintes pour ces personnes dans l'avenir, pour avoir un crédit, pour avoir un chéquier ou...
Alors les gens sont fichés, donc là ils étaient fichés pendant 8 ans, ils le seront maintenant pendant 5. Donc pendant 5 ans finalement, donc il n'y a aucun moyen pour eux finalement d'obtenir un prêt. Voilà. Même dans le cas d'un microcrédit, c'est extrêmement difficile à négocier, puisque quand les gens le sont, les banques sont quand même frileuses, même dans le cadre du microcrédit. Et après au niveau des moyens de paiement, c'est vrai que c'est en fonction des banques et en fonction finalement de la relation que la personne avait avec son banquier ou l'utilisation qu'elle avait au niveau du compte bancaire. Moi j'ai fait des annulations de dette finalement puisque je suis mandataire pour le tribunal de Saint-Omer, des annulations de dette finalement pour des gens qui avaient exclusivement que deux prêts. C'est parce qu'il y a eu un accident de la vie et le montant global de l'endettement il était dérisoire, mais les gens ne pouvaient pas revenir à meilleure fortune et il n'y avait aucun moyen pour eux finalement. Leurs ressources leur permettaient juste de pouvoir régler leur loyer et puis d'assumer les charges courantes. Voilà. Donc pareil, les annulations de dette ne sont pas toujours pour des endettements extrêmement importants. Hein, ce ne sont pas des sommes colossales qui sont annulées. Moi j'ai des dossiers, si je devais les ressortir, j'ai des dossiers d'annulation de dette à 3 000 ou 5 000 euros. Voilà. Et parce que c'est bien, voilà, il y a beaucoup par rapport aux accidents de la vie, mais j'ai rarement eu d'énormes dossiers dans l'annulation de dette, c'est pas vrai.
Est-ce qu'on peut admettre que des jeunes, beaucoup de jeunes, commencent à prendre dès leur début de mariage, on va dire, ou début de vie, des pratiques, des habitudes de consommation qui ne sont pas vraiment raisonnables. Par exemple, est-ce qu'on peut, compte tenu des coûts actuels des logements, investir dans un crédit à 30 ans, voire plus, pour acheter un logement actuellement ?
C'est sûr, c'est une situation extrêmement délicate, pour ne pas dire, comme vous dites, comme vous suggérez, dangereuse, hein, entre les périodes de chômage, la mobilité professionnelle, comment être sûr d'être fixé au même endroit tout au long de sa carrière professionnelle. Alors, autre écueil, y a-t-il assez de souplesse pour trouver facilement à louer où on travaille ? Ça, c'est une autre difficulté. Et puis, il y a le rêve des Français d'être propriétaire. Et c'est assez cultivé, y compris par la présidence de la France. Il s'agit d'être propriétaire en France, sinon, à la limite, on n'a pas le bon statut.
Mmh. Alors, autrefois, les gens qui voulaient être propriétaires, soit ils avaient l'argent, soit ils achetaient une maison qui correspondait à leurs possibilités, soit ils prenaient un crédit, mais pas complet sur l'ensemble de l'achat. Là, de plus en plus, la part du crédit par rapport à l'investissement personnel est importante.
Oui, d'autant plus que le renchérissement exige pratiquement de trouver davantage d'argent par crédit que l'argent déjà en réserve pour commencer à payer, oui.
Donc ces personnes qui s'engagent dans l'achat d'une maison, souvent, elles ont un peu sous-estimé le coût réel de la maison, plus l'aménagement de la maison, plus l'entretien éventuel. Et tout ça, ça finit par s'ajouter et rendre les choses beaucoup plus complexes.
Oui, et une autre situation qu'ils n'envisagent pas toujours facilement, c'est le coût de frais induits. Parce qu'à tel endroit, la maison n'est pas achetable parce que c'est en CPR centre ou c'est dans une ville trop cotée et donc les prix sont inabordables. Donc ils s'expatrient un peu, ils vont dans la campagne et ils s'aperçoivent qu'il faut une voire deux voitures. Ensuite qu'il y a des contraintes pour les études, etc. Et tous ces coûts-là n'ont pas été correctement évalués au départ, c'est sûr.
Mmh. Viennent en plus s'ajouter des frais habituels, des charges habituelles, mais aussi des achats que les gens estiment maintenant nécessaires. On peut parler de tout ce qui est Internet, tout ce qui est haute définition, ces technologies modernes qui finalement, quand on finit de payer l'ensemble des charges, correspondent à un budget relativement important.
Oui, ça correspond à un budget relativement important, mais moi je me rends compte que beaucoup de gens ne font pas leur budget mensuellement. Il y a nombreuses personnes quelquefois qui ont des difficultés financières ou qui arrivent quelquefois sur endettement parce que le budget n'a pas été établi. Voilà. Vous avez très peu de gens finalement qui sachent indiquer leur charge mensuelle, qui sachent indiquer finalement quelle est la part de la nourriture ou tout au moins de leurs courses finalement mensuellement ou de certaines choses qui sont relativement importantes au niveau du budget. Et ça, c'est peut-être aussi le souci. C'est de revenir finalement peut-être, même au sein de durant la scolarité, à revenir à réétablir, à rappeler qu'un budget nécessaire afin de pouvoir se dire voilà, on peut ou on ne peut pas finalement faire tel ou tel achat. Il n'y a pas le côté volontaire quelquefois de s'endetter. Voilà, c'est le fait, les gens pensaient y arriver. Voilà, on a fait une pièce de théâtre il y a peu de temps sur le thème, voilà, c'est le titre, c'est on va y arriver. C'est un petit peu ça. C'est que les choses se cumulent, mais le fait de ne pas poser les choses clairement sur une feuille de papier en disant ben voilà, j'ai autant de rentrées d'argent, j'ai autant de sorties, j'évalue que telle chose finalement ça paraît trop coûteux par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Il faut que les gens prennent le temps de poser les choses, et quand vous les recevez, les gens reconnaissent qu'ils ne prennent pas ce temps là de poser un petit peu le point sur leur capacité de remboursement ou de financement.
Quand ces capacités sont dépassées, qu'est-ce qu'il reste comme solution à une personne qui est en surendettement vraiment important ?
Dans ces cas-là, quand on n'a pas le choix, quand le suivi budgétaire n'est pas suffisant pour redresser finalement la situation, quelquefois il reste que la possibilité de déposer un dossier de surendettement afin de permettre d'étaler finalement les créances sur un nombre d'années et d'avoir des taux d'intérêt qui soient plus bas lorsque les gens ont une capacité de remboursement. Voilà.
Est-ce qu'un propriétaire d'une maison peut justifier d'être en surendettement ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là on a parlé au niveau de la loi Lagarde en disant que les propriétaires au jour d'aujourd'hui pouvaient déposer un dossier de surendettement, mais les propriétaires pouvaient déjà le faire par le passé. Voilà. C'est toujours la situation qui est évaluée, c'est-à-dire c'est la valeur du bien, ce qui reste à rembourser pour celui qui a encore un remboursement finalement sur son bien immobilier. Donc c'est vraiment la situation qui sera évaluée dans l'ensemble par la commission de surendettement.
Alors, avant de venir vous voir dans une situation avouée de surendettement, beaucoup de gens tentent des opérations, notamment avec leurs banques, voire avec des crédits revolving d'agences qui proposent leurs services.
Au lieu quelquefois peut-être de s'enfoncer en prenant un crédit renouvelable supplémentaire, il vaut mieux aller voir quelqu'un ou il vaut mieux déposer le dossier de surendettement ou aller voir une conseillère en économie sociale et familiale ou une association de défense du consommateur qui va établir le budget, qui va leur expliquer leur situation. Moi, je reçois quelquefois des personnes qui imaginent être en surendettement et ils ont des problèmes budgétaires, mais ils ne sont pas en situation de surendettement. Par contre, ils l'auraient peut-être été finalement peut-être dans 2-3 ans si un coup de main ne leur avait pas été donné, si l'orientation ne leur avait pas été donnée. Ça aussi, ça en fait partie. Je crois que pour moi, à mon goût, il faut arrêter, je pense, de toujours faire valoir que les gens s'enfoncent davantage. Maintenant, c'est vrai qu'on a, on arrive dans une période où vous vous rendez compte qu'il y a plein d'offres finalement qui sont au niveau des magasins, c'est vrai qu'au niveau des crédits renouvelables, qui sont proposés. Alors c'est vrai quelquefois les gens peuvent être tentés en disant on n'a pas les moyens, donc c'est un moyen de se faire plaisir. Oui, possible. Oui, il faut reconnaître que certains vont le faire. Voilà. D'autres, certains, ça va pas déstabiliser leur budget et d'autres malheureusement ça va vraiment mettre leur budget à néant. Ça, ce sont des choses qui existent, mais s'il y a une chose à retenir, c'est quand même que ça n'est pas la majorité.
Voilà, bien, merci Madame Sylvie de Kester, merci Monsieur Daniel Despinois. Ce qu'on peut proposer, c'est pour les gens qui souhaitent en savoir plus ou avoir déjà une idée de la difficulté, du niveau de difficulté de leur problème, de contacter l'UROC.
Oui, tout à fait. Donc au 03 20 42 26 60. Et donc ce sera Noémie qui orientera finalement en fonction du lieu de résidence des personnes vers l'association la plus proche de leur domicile.
Je vous remercie.
Merci.
Merci.